Vous écoutez On lit pour vous.
10 conseils aux aspirants journalistes. Un texte de François Cardinal paru le 7 juin 2025 dans la presse. Eh oui, encore aujourd'hui, malgré la précarité du métier, les mises à pied et les fermetures de journaux, de nombreux jeunes veulent devenir journalistes. Cela peut surprendre ceux qui parlent d'une crise de confiance envers les médias de référence, surtout chez les jeunes, mais pas moins de 200 aspirants ont posé leur candidature pour notre stage d'été à la presse. Ils ont passé un test de connaissances générales, subi un redoutable examen de français, réalisé un exercice de rédaction sous pression et passé des entrevues serrées. Finalement, 10 jeunes reporters, dont 2 lauréats de prix en journalisme et un photographe, auront la chance d'évoluer dans notre salle de rédaction à l'été 2025. Mercredi le 4 juin 2025, je les ai accueillis avec 10 conseils pour les guider durant leur stage. Des conseils qui sont vrais pour ces stagiaires et pour tous les jeunes journalistes qui désirent s'améliorer. J'ai eu envie de vous en faire part. Si tu veux changer le monde, change de tribune. Le journaliste travaille sans parti pris, sans a priori. Il est impartial, il cherche la vérité. Alors que le militant cherche, lui, à convaincre, il défend une cause, des positions arrêtées. Laisse donc tes convictions à la porte de la salle de rédaction. Tu n'es pas plus gros que le club. La salle de rédaction, composée de 225 journalistes et artisans à la presse, est plus importante que les journalistes pris individuellement. Apprends à travailler seul, mais sans jamais oublier l'équipe. La rigueur, après tout, est un objectif collectif. Go to the event, read the material, talk to the players. Rends-toi sur place, plonge dans les documents, échange avec les gens. J'ai toujours aimé ce conseil que le confrère Jean-François Lisée avait aperçu sur le post-it d'un journaliste du Toronto Star installé à Washington. C'est la base, et pourtant, elle est facile à oublier en cette ère technologique qui permet de tout faire avec un cellulaire et 2 pouces. Rigueur, rigueur, rigueur. Le guide des normes journalistiques de la presse énumère les valeurs sur lesquelles s'appuie la démarche journalistique attendue. La recherche de la vérité, l'équité de traitement, l'honnêteté, l'indépendance, le respect, etc. Autant de valeurs qui mènent à une seule et même chose, la rigueur. Ne tombe pas amoureux de ton sujet. L'enthousiasme, c'est bien, mais pas la vision tunnel. Garde une distance critique, surtout quand tu couvres des sujets, des causes ou des milieux que tu connais bien. Tu n'écris pas pour être aimé. Écrire pour plaire, c'est trahir son rôle. Ne pas écrire pour ne pas déplaire, c'est une trahison aussi. Notre travail n'est pas d'être populaire, c'est d'être pertinent. Va voir de tes propres yeux. Ne te contente pas de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a rapporté, ni de ce que tu as lu ailleurs. Va sur place, parle aux gens. Il n'est jamais arrivé qu'un journaliste regrette d'être allé sur le terrain, bien au contraire. La meilleure source, c'est le réel. Tu es là pour chercher, pas pour avoir raison. Ton rôle, c'est d'explorer, pas de prouver ce que tu crois déjà. Sois curieux, pas complaisant. Le journalisme n'est pas un exercice de validation d'opinion, mais bien une démarche de découverte. Ouvre les yeux, écoute. N'oublie pas que tu es les yeux et les oreilles du public. Pose une question de plus. Quand tu penses avoir fini une entrevue, pose une dernière question. Quand une conférence de presse se termine, demande à poser une question de plus après l'événement. En poussant plus loin, tu augmentes tes chances d'avoir de meilleures réponses et de te rapprocher encore un peu plus de la vérité. Écris pour l'intérêt public, mais d'abord pour le lecteur. Au cœur de la démarche journalistique, on trouve l'intérêt public. c'est la destination. C'est ce qui guide le reporter. Mais ce dernier doit avoir en tête le lecteur, celui à qui il s'adresse, et ses besoins. C'était « 10 conseils aux aspirants journalistes », un texte de François Cardinal, paru le 7 juin 2025 dans La Presse. Encore plus de conseils aux jeunes journalistes. Un texte de la rédaction paru le 7 juin 2025 dans La Presse. La Presse accueillait la cohorte 2025 de son traditionnel stage en journalisme. Pour l'occasion, l'éditeur adjoint François Cardinal a livré 10 conseils aux aspirants journalistes. Dans le cadre de la rédaction de ce texte, il a demandé aux journalistes de la salle de rédaction leurs conseils aux stagiaires. En voici une trentaine. 1. Douter. Doutez des informations transmises par vos sources, surtout les sources confidentielles. Doutez du discours officiel, doutez des intentions de vos sources, doutez de la véracité des documents que vous obtenez par des canaux non officiels. 2. Vous êtes les témoins du public qui compte sur vous pour aller voir ce qui se cache de l'autre côté, de tous les murs qui se dressent sur les chemins de la liberté de l'information. Il faudra même parfois sauter ce mur, mais attention de le faire toujours dans les limites de la loi. 3. On peut pardonner une erreur faite de bonne foi, mais on peut plus difficilement pardonner un manque de curiosité. 4. Ayez l'esprit critique. Apprenez à douter des autres et de vous-même. Soyez toujours prêt à remettre en question vos idées, à considérer l'hypothèse selon laquelle vous avez tort, à considérer le contre-argument à la position qui vous est présentée. 5. Lisez des gens qui expriment de bonne foi et rationnellement des positions différentes des vôtres ou qui ont un vécu différent du vôtre. 6. Intéressez-vous aux gens qui ne pensent pas comme vous, qui voient les choses autrement. Ça fait des papiers plus équilibrés, bien sûr, mais ça ouvre aussi de nouveaux horizons. Ça fait grandir. 7. Allez sur le terrain. Posez toutes vos questions, même celles qui semblent farfelues. Si vous vous posez cette question, un lecteur se la pose quelque part. 8. Essayez encore et encore des choses ambitieuses qui semblent improbables. Obtenir une entrevue avec une superstar inaccessible, négocier un accès dans un lieu, risquer une question en entrevue pour laquelle on se dit qu'on n'obtiendra jamais de réponse, se pointer à l'improviste quelque part. La plupart du temps, ça ne marchera pas. Mais quand ça marche, et ça arrive plus souvent qu'on le croit, ça fait un coup de circuit. 9. Foncez, c'est tout. Allez voir les gens. Intéressez-vous à leurs histoires. Saisissez les occasions de découverte. Cultivez votre enthousiasme. On est payé pour cultiver notre curiosité. N'est-ce pas merveilleux? 10. Il n'y a pas de mauvaises histoires. Que de mauvaises façons de les raconter. 11. Il n'y a pas de petits sujets. Dans tout sujet, on peut y mettre quelque chose d'inédit, un angle, un ingrédient, une information. 12. N'ayez pas peur de déranger les gens. Que ce soit en cognant à la porte après un événement tragique, en appelant trop tôt le matin ou trop tard le soir, ou en craignant que le contenu d'un article suscite des réactions. 13. Toutes les questions se posent. Tout dépend de la façon de les poser. 14. Plus une porte vous semble fermée, plus vous devez y cogner fort. 15. Proposez, proposez, proposez. Vous avez un pied dans la porte. Proposez des dossiers, des idées d'entrevue, de portraits, des « c'est le 10e anniversaire de tel événement », des séries d'été, commerce insolite, etc. Peu le font, mais ceux qui le font se rendent indispensables. Il n'y a pas beaucoup de jobs en journalisme, mais un jour, une porte va s'ouvrir. Placez votre pied et ne le retirez jamais. Ça veut dire travailler fort, accepter les défis et accepter de travailler hors du 9 à 5. 17. Soyez toujours humble et acceptez la critique de vos pairs dans la création et la correction de vos textes. Ça permet de publier de meilleurs textes et ça permet de ne jamais s'encrouter. 18. Si vous couvrez un événement avec d'autres journalistes ou photographes, regardez ce qu'ils publient ensuite et comparez avec votre travail. Quel angle a été utilisé? Quelles sont les différences? Qu'est-ce que vous préférez de votre travail? Qu'est-ce qui vous inspire du leur? 19. Nos articles doivent être compris en une seule lecture, parfois faite dans un environnement plein d'autres stimuli. Alors, soignez votre écriture. Un texte rythmé, fait de phrases claires et écrites avec un vocabulaire précis, donne envie de poursuivre la lecture. La langue est notre principal outil. La maîtriser n'est pas accessoire. 20. Votre texte est terminé? Maintenant, enlevez un mot par ligne. 21. Rappelez-vous pour qui vous écrivez. Avec le temps, on a tendance à devenir un initié qui se met à écrire pour plaire à d'autres initiés, gens du milieu, experts, collègues, etc. On se dit tous qu'on ne le fera pas, mais on l'a tous déjà fait. Il faut garder une image forte de qui est notre lecteur cible. 22. Lâchez les écrans, sortez du bureau, marchez sur du vrai terrain et parlez à du vrai monde face à face. Certains de nos jeunes pensent que ce n'est plus nécessaire puisque tout est accessible en ligne, mais en fait, c'est l'inverse. À l'heure où tout semble accessible en ligne, ce sont ceux qui sortent arpenter le monde physique qui arrivent à offrir une plus-value. 23. Ce n'est pas en appelant des experts au téléphone qu'on récolte des contacts et qu'on se bâtit un réseau de sources. C'est en établissant des liens avec les gens rencontrés au fil des reportages sur le terrain qu'on devient meilleur puisqu'on est alimenté de toutes parts. 24. Soyez les yeux, les oreilles et les nez de nos lecteurs. Ça veut dire aller sur le terrain. Parlez aux gens face à face, décrivez les lieux, les sons, les odeurs, l'ambiance, l'émotion. 25. Textez, appelez, envoyez des courriels jusqu'à la toute dernière minute. Le dernier contact pourrait s'avérer la clé de voûte de votre histoire. La confirmation qui vous permettra de bien dormir ou l'info qui change complètement l'article et le rend encore meilleur ou complètement différent et inédit, auquel cas il faudra peut-être tout réécrire. 26. Ne craignez pas d'avoir l'air niaiseux. Posez toutes les questions que vous voulez, même les questions de base. Essayez d'apprendre de vos erreurs, mais ne vous tapez pas sur la tête. Tout le monde peut se tromper. 27. Il n'y a pas de questions stupides. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on a des angles morts, qu'il nous manque de perspectives historiques, que certains concepts scientifiques ou géopolitiques sont compliqués. 28. Confrontez vos idées. Laissez le terrain et vos entrevues faire évoluer les a priori et l'angle que vous aviez au départ. 29. Vérifiez et relisez toujours 2, 3 et 4 fois ce que vous écrivez pour être certain de ne pas vous tromper et souvenez-vous qu'il y a toujours 2 côtés à une médaille. Alors, n'oubliez pas de donner la parole ou du moins de l'offrir à toutes les parties impliquées dans votre histoire. 30. Parlez aux étrangers. Je veux dire, posez des questions sans but précis à des gens qui ne sont pas nécessairement le sujet principal. Peut-être un autre sujet. 5 autres sujets sont devant vous, invisibles. C'était encore plus de conseils aux jeunes journalistes. Un texte de la rédaction paru le 7 juin 2025 dans La Presse.
Un taco qui nourrit l'opposition à Donald Trump, un texte de Fabien Deglise, paru le 4 juin 2025 dans Le Devoir. Une colère s'est emparée du camp républicain mardi dernier, après que les démocrates ont décidé de planter un camion de bouffe de rue juste devant le siège du parti de Donald Trump à Washington, pour y servir gratuitement des tacos. Exposant une photo du président américain affublé d'un costume de poulet, le véhicule, tout comme l'événement, exploitait, pour l'amplifier, le surnom attribué il y a plusieurs semaines au président par les milieux financiers de Wall Street, Taco pour « Trump always chickens out ». Trump se dégonfle toujours. Le terme cherche à rire, en quatre lettres, de la fermeté matinée d'une rhétorique parfois violente que le populiste affiche sur les tarifs douaniers depuis son retour à la Maison-Blanche et qui se solde bien souvent par des marches arrière et des tergiversations. Il a été inventé par le chroniqueur du Financial Times, Robert Armstrong. Nous avons « l'opposition la plus nulle de l'histoire américaine », a répondu le vice-président J.D. Vance sur le réseau social X à un message du journaliste d'Axios Andrew Solander qui révélait l'existence de cette distribution gratuite de nourriture proche du Capitole et sur le dos de Donald Trump. Venant d'un parti et d'un proche du président qui depuis des années fait de l'insulte de ses adversaires politiques, par excès de quolibets, sa marque de commerce, l'indignation des républicains face à une caricature du populiste en poulet pourrait autant surprendre que faire davantage sourire. Mais elle vient surtout démontrer que, pour une rare fois, l'arroseur est en train de se faire arroser et que lui, tout comme son entourage, ne semble pas aimer ça. Ce surnom irrite Donald Trump, résume en entrevue Kelly Daly, professeur à l'école des médias de l'université Northeastern en Californie et fine commentatrice de la culture populaire américaine. L'homme l'a montré il y a quelques jours dans le bureau ovale, où il a qualifié de dégueulasse la question d'une journaliste de CNBC lui demandant ce qu'il pensait de ce nouveau surnom. Contrairement aux blagues superficielles ou aux surnoms qui jusqu'à maintenant ciblaient surtout son physique, comme la couleur orangée de sa peau ou ses petites mains, pour un homme de sa taille, Taco vient toucher là où ça fait mal, la perception que l'on a de son pouvoir de négociateur. Moquerie en chaîne. Après plusieurs mois de stupeur et de silence face à la reprise du pouvoir, dans la radicalité et le chaos, par Donald Trump, l'opposition américaine semble avoir trouvé dans cet acronyme sarcastique une nouvelle arme pour dénoncer le nouveau régime qui se met en place à Washington, sous les yeux parfois affligés de l'Amérique et du reste du monde. En témoigne la flambée d'images dépeignant le président en poulet, reprenant l'acronyme TACO à côté de son visage ou associant l'occupant de la Maison-Blanche au célèbre plat mexicain qui se répandent depuis une semaine dans les univers numériques. Le mouvement, soutenu par des humoristes comme Jimmy Kimmel, mais aussi par des centaines de créateurs d'eux-mêmes sur Instagram et d'autres réseaux sociaux, a ainsi contribué à faire sortir Taco de la niche des courtiers de Wall Street pour le faire entrer dans la sphère populaire au grand dam du président. Taco, ce n'est pas une simple blague. C'est une satire qui vise à révéler une vérité, résume Kelly Daly, qui, depuis plusieurs mois, donne un cours à l'université intitulé « L'humour peut-il sauver la démocratie ?» Elle va au-delà de la moquerie. Elle encourage les gens à se questionner sur les incohérences ou la lâcheté de Donald Trump, à se renseigner sur les droits de douane auxquels la plupart des Américains n'ont pas réfléchi depuis l'importation du thé colonial, ainsi qu'à résister. Et elle capte surtout l'attention et invite au partage. En somme, Taco n'est pas juste un surnom. C'est en train de devenir une étude de cas sur le potentiel de l'humour à stimuler la conscience politique. Dans le climat politique américain morose, teinté quotidiennement par les attaques du nouveau président contre la démocratie, l'état de droit, la liberté de la presse, les alliances internationales, le trait d'humour pourrait ainsi avoir quelque chose de salutaire pour les démocrates. C'est que leur message martelé depuis des mois sur la défense de la démocratie et le spectre d'un régime autoritaire en formation sur le sol américain n'a pas réussi à convaincre, en raison sans doute de sa trop grande abstraction. Et l'humour pourrait les aider à percer à l'avenir le mur de l'indolence, de l'inertie et de l'indifférence face à un président qui cherche méthodiquement à s'arroger tous les pouvoirs pour la défense de ses intérêts économiques et idéologiques, au risque de jeter à terre plus de 230 ans de pratiques démocratiques aux États-Unis. Rire pour défaire. L'arme peut d'ailleurs être redoutable, si l'on en croit le politicologue américain Gene Sharp, étrangement plus connu à l'extérieur de son pays qu'au sein même de la Fédération, et dont les écrits ont tracé, jusqu'à sa mort en 2018, les contours d'une résistance pacifique et calculée contre les autocrates de ce monde et les régimes délétères qu'ils ont réussi à mettre en place. Et pour les faire tomber, la moquerie, par l'usage d'un humour de préférence caustique ou licencieux, ne doit pas être négligée, selon ce penseur, dont les principes ont été mis en application par des mouvements pro-démocratie en Europe de l'Est, en Asie et au Moyen-Orient. Les dictateurs ne sont jamais aussi forts qu'ils le prétendent, et les gens ne sont jamais aussi faibles qu'ils le croient, a-t-il écrit en rappelant que l'humour a l'avantage de placer l'autocrate dans une position délicate. Il devient ridicule et expose sa faiblesse autant en cherchant à réprimer la blague qu'en donnant l'impression de l'ignorer. L'écueil se retrouve sans doute amplifié dans le cas de Donald Trump, qui a fait de l'humour un des carburants de son ascension, passant par là autant pour déshumaniser ses adversaires que pour normaliser auprès de ses troupes plusieurs de ses comportements les plus discutables. En campagne électorale, le populiste a rapidement fait oublier son statut de criminel condamné par la justice en se comparant lui-même à Al Capone et en affirmant avoir été inculpé plus que ce grand mafieux entré dans la mythologie américaine. Rien dans cette comparaison n'est exact, bien sûr, mais par le rire, il a réussi à se bâtir une image d'intouchable qui a certainement contribué à sa victoire en novembre 2024. Donald Trump a su transformer la moquerie en pouvoir, donnant même corps à un autre de ses surnoms, plus flatteur, celui-là, Don Teflon, Teflon Don en anglais, apparu avant même sa première élection. Le qualificatif vise à illustrer que rien ne peut l'atteindre, mais Taco vient peut-être de le rendre obsolète en ouvrant désormais une brèche dans cette carapace pour permettre à d'autres de s'y engouffrer à l'avenir, pour faire réfléchir, pourquoi pas, sur sa relation avec les dictateurs, sur ses attaques contre la justice, sur les affaires lucratives de sa famille, sur la mise en péril de l'économie américaine par ses politiques, et ce, par le rire, plutôt que de subir. C'était un taco qui nourrit l'opposition à Donald Trump, un texte de Fabien Deglise, paru le 4 juin 2025 dans Le Devoir.
Engager sa personne et son parcours de vie dans le bénévolat, milité par le témoignage au Gris Montréal. Un texte d'Alexis Grain-Dorge, Gabriel Richard, Amélie Charbonneau, Kevin Lavoie, Phil-Ariane Desmarais et Olivier Valerand, paru dans le numéro du printemps 2025 de la revue du Crémis. Quelques courtes définitions. Bisexuel, adjectif. Personne ressentant une attirance sexuelle et émotionnelle envers les personnes de même genre qu'elle ou d'un genre différent du sien. 6. Cisgenre, adjectif. Personne dont l'identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance. Coming out, nom. Acte de dévoiler son identité de genre ou son orientation sexuelle à une ou plusieurs personnes. Diversité sexuelle, nom. Ensemble des personnes qui ne sont pas strictement hétérosexuelles. Gay, adjectif, voire homo, homosexuel. Hétéro, hétérosexuel, adjectif, personne ressentant une attirance sexuelle et émotionnelle envers les personnes d'un genre différent du sien, typiquement utilisé dans un contexte binaire femme-homme. Homo, homosexuel, adjectif, personne ressentant une attirance sexuelle et émotionnelle envers les personnes du même genre qu'elle. Identité de genre, nom, sentiment très intime d'une personne d'appartenir à un genre, plusieurs genres ou aucun genre. Intersectionnalité, nom, interaction de différentes dynamiques d'oppression et de discrimination exposant une personne ou une communauté à une augmentation des préjudices subis. Lesbien, lesbienne. Adjectif, voire homo, homosexuel. LGBTQ+, adjectif. Ensemble des personnes lesbiennes, L, gay, G, bisexuelles et pansexuelles, B, trans, T, queer et en questionnement, Q, et plus largement des personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, plus. Non-binaire, adjectif, personne dont l'identité de genre n'est pas conforme aux figures binaires de la femme et de l'homme. Pan, pansexuel, adjectif, personne ressentant une attirance sexuelle et émotionnelle envers les personnes, indifféremment de leur genre. Queer, adjectif, personne qui n'est pas strictement hétérosexuelle et cisgenre. Trans, transgenre, adjectif, personne dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. Je m'appelle Elio, j'ai 27 ans et je suis une personne non-binaire. Fondé en 1994, le Gris Montréal intervient auprès du public scolaire québécois pour activement participer à la démystification des orientations sexuelles et, depuis 2019, des identités de genre. Son mode de fonctionnement unique repose sur des interventions axées sur la visibilité, le questionnement respectueux et le dialogue. Ces interventions offrent aux jeunes l'espace pour poser des questions souvent tues et obtenir une réponse sincère et non infantilisante. Les bénévoles, formés pour intervenir en classe, se racontent en témoignant de leur propre vécu. Par conséquent, pas de résumé d'articles académiques, pas d'évocation de statistiques ni de recours à de grandes théories dans la classe. Ce que les bénévoles partagent, c'est avant toute chose leurs expériences, leurs individualités et leur parcours personnel. En ce sens, leur prise de parole est un acte militant, car elles ont recours au témoignage public dans l'objectif de provoquer un changement social menant à leur inclusion dans la société. Cet aspect militant de l'intervention est d'autant plus saillant qu'il vient perturber le statu quo de l'école où les sujets des diversités sexuelles et de genre sont peu soulevés, ou alors de façon pathologisante et altérisante. Aller en classe pour en parler de façon frontale constitue alors une intervention politique en soi. Pour des personnes queer à l'intersection de plusieurs minorités, soit non limitativement à l'intersection des identités lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles, trans, racisées, handicapées et ou immigrantes, vivre au quotidien peut être insécurisant en raison de l'invisibilisation de ces identités dans la sphère publique, de la dimension nécessairement politique de leur existence dans la société, ainsi que de la montée des discours d'intolérance et d'exclusion, en particulier à l'école pour ce qui est des jeunes. En 2022-2023, grâce à une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada, IRSC, le GRI Montréal, en collaboration avec les autres GRI du Québec et d'Acadie, a rencontré un échantillon des bénévoles de l'ensemble des GRI pour recueillir leurs paroles concernant leur implication au sein de l'organisme, sonder les impacts sur leur santé psychologique et sociale et explorer les formes que pourrait prendre leur implication future. Nous avons ici recensé les impressions de bénévoles actifs, actives et passés au travers d'un questionnaire en ligne rempli par 95 bénévoles, d'entrevues individuelles avec 46 bénévoles et d'un groupe de discussion rassemblant 6 intervenants, intervenantes, trans et non-binaires. Cet article s'attardera sur les quelques impacts psychologiques et sociaux qui reviennent le plus souvent dans les discours des intervenants, intervenantes rencontrés. Spécifiquement, nous nous concentrerons sur la dimension thérapeutique du témoignage avant de discuter d'intersectionnalité dans la communauté LGBTQ+. Le tout permettra d'alimenter les discussions sur le bénévolat militant au sein d'un organisme communautaire queer et ses impacts au niveau individuel. Le témoignage thérapeutique. Un peu plus de la moitié des bénévoles du GRI rapportent un sentiment d'amélioration de la santé psychologique liée à son implication. Cette amélioration se manifeste de façon concrète par une diminution de l'anxiété sociale, du sentiment d'isolement et des idéations autodestructrices et suicidaires chez les personnes qui rapportaient en avoir avant de commencer à s'impliquer. Une bénévole se confie en ces termes. « Pour moi, ça a été un ancrage, une bouée de sauvetage, quelque chose de positif dans mes années de merde. J'ai fait une dépression majeure et j'ai dû être hospitalisé. Ce n'est pas rien. J'avais hâte de guérir pour continuer à aller faire les interventions. Je me disais, si je peux juste faire ça dans la vie, si je ne peux plus retourner travailler, ce n'est pas grave. J'aurai au moins cette voie-là. » Par ailleurs, le sentiment de faire une différence auprès des jeunes ainsi que la rétroaction positive des élèves, des co-intervenants, intervenantes et de l'équipe du GRI sont cités comme source d'une meilleure estime de soi et d'une confiance en soi accrue. Certaines bénévoles mentionnent aussi la confrontation au monstre de l'homophobie en milieu scolaire comme une étape à franchir difficile, mais libératrice dans leur parcours de vie. Or, ce monstre a souvent été vécu de façon très personnelle par les bénévoles ayant été elles-mêmes victimes de violences de genre à l'école, incluant les violences sexuelles et sexistes. Et elles doivent alors, dans certains cas, le surmonter à nouveau lors des interventions, qui implique nécessairement de s'exposer à l'éventuel jugement des élèves, ce qui ne se fait pas nécessairement sans difficulté. Dans d'autres cas, cette confrontation peut être vécue comme une libération, une manière positive de réinvestir l'école en tant que personne queer. L'implication aux gris dans les écoles, ça m'a peut-être apporté une certaine quiétude et une certaine paix. Je me suis fait écœurer à l'école, et ça m'a permis de comprendre un peu plus leurs questionnements. Ça m'a apporté une certaine satisfaction. Je trouve que le monde s'améliore, et ça m'a vraiment confirmé à quel point c'était important de continuer les activités de l'organisme. En dehors de l'école, plus de la moitié des bénévoles mentionnent que l'expérience d'intervention a eu un impact positif sur leur relation avec leur famille, qu'il s'agisse de leurs parents, de leurs partenaires ou de leurs enfants, et leurs cercles sociaux rapprochés. Spécifiquement, la formation offerte ainsi que les interventions en elles-mêmes outillent les intervenants intervenantes avec des compétences de communication, d'écoute et d'ouverture qui sont pleinement transposables à leur vie privée et professionnelle. À la question « Dans vos mots, pouvez-vous décrire l'effet qu'a eu votre engagement social sur votre vie de famille? » Un intervenant, une intervenante répond « Avec mes parents, on a eu des conversations sur la façon dont elles ont vécu mon coming out, sur leur propre réception de mon orientation, etc. Ça a permis d'avoir leur version des faits, d'ouvrir un dialogue sur un sujet dont on parle peu et qu'on croyait affaire classée. On parle plus librement de mon orientation et de mes vies amoureuses. Vous écoutez Engager sa personne et son parcours de vie dans le bénévolat, milité par le témoignage au Gris Montréal. Un texte d'Alexis Grain-Dorge, Gabriel Richard, Amélie Charbonneau, Kevin Lavoie, Phil-Ariane Desmarais et Olivier Valeran, paru dans le numéro du printemps 2025 de la revue du Grémis. L'implication communautaire crée du lien social. D'autres bénévoles mentionnent que leur implication au sein du Gris leur a permis de s'entourer de modèles de personnes et de familles queer, lesquels ont pu avoir un effet réparateur pour certaines personnes ayant une relation conflictuelle avec leurs parents ou encore qui ressentaient du malaise à être la seule famille queer visible de la classe, voire de l'école, de leurs enfants. Cette possibilité de s'entourer de représentations positives revient très souvent parmi les bénévoles, particulièrement car elles offrent un sentiment de rapprochement avec la communauté et d'appartenance à une gang intergénérationnelle serrée. Cet engagement ainsi que ses impacts positifs concrets font donc une grande différence dans la vie des intervenants intervenantes du Gris. Et elles se sentent mieux dans leur peau et ont des outils pour avoir des interactions de meilleure qualité avec leur entourage. Et elles abordent, et surpassent même parfois, les événements difficiles de leur passé. Et elles rencontrent du monde qui leur ressemble. Et elles ont le sentiment profond de faire une différence pour les jeunes, que ce soit leur donner des modèles humains et positifs ou ouvrir leur perception à des réalités qui ne sont pas les leurs. Tous ces éléments permettent la réduction concrète du stress minoritaire au sens de Meyer et Frost et Meyer. Le tout est verbalisé en ces termes par une bénévole. En intervention, je sais que personne ne va me kicker des roches et me juger. Je n'ai pas à me stresser comme quand j'ai fait mon coming out à la famille ou à des amis. Je sais qu'au Gris, je vais juste arriver comme je suis et ça va être correct. Pré-transition, certaines situations étaient anxiogènes parce que je n'étais pas moi-même, mais ça a changé. Je ne ressens plus d'anxiété à pouvoir être moi-même avec des gens avec qui je sais que ça va bien aller. Être visible, un prérequis au témoignage. Il convient ici de mentionner que la modalité du témoignage implique que les bénévoles soient à la fois en mesure et à l'aise de parler en profondeur de leurs identités, de porter une ou plusieurs étiquettes et de faire face à des attitudes et des propos adverses, voire hostiles. Cette démarche nécessite une certaine revendication de son identité queer et de réappropriation des discours, stéréotypes et attentes qui l'entourent, ce qui peut brouiller les frontières entre les aspects thérapeutiques et militants liés au témoignage. De plus, que ce soit en classe ou à l'échelle de la société en général, toutes les identités queer ne sont pas nécessairement accueillies avec le même degré d'ouverture. À titre d'exemple, la bisexualité est source de moins de rejet parental que l'homosexualité chez les jeunes hommes, ce qui joue en défaveur des expériences et des étiquettes les plus stigmatisées. Par conséquent, il n'est pas surprenant que les identités gays, lesbiennes et bisexuelles de personnes au parcours plus privilégié soient surreprésentées dans les effectifs du gris. Le privilège dont il est question résulte notamment du fait que la majorité de nos effectifs est constituée de personnes qui, en plus de pouvoir dégager du temps en semaine pour se rendre dans les écoles, sont en mesure de répondre à l'injonction d'être visibles au quotidien, ce qui est nécessaire à la tâche d'intervention par le témoignage. Cela requiert d'avoir traversé une période de questionnement, de découverte, d'acceptation et d'appropriation de son identité non conforme aux normes de genre binaire et de sexualité hétérosexuelle et d'appartenir à une communauté sécuritaire où le coming out est moins difficile, voire simplement possible. Il faut aussi être en mesure de faire face à des remarques et des discours qui peuvent être violents. Ce processus peut être facilité ou entravé par certains facteurs de prestige social ou de stigmatisation, comme la couleur de peau, l'accès aux soins et à l'éducation, les moyens financiers et le climat social de la communauté. Les personnes queer racisées, précaires ou socialement stigmatisées dans leur communauté sont empêchées, à un niveau systémique, de prendre la parole à propos de leur parcours queer. En conséquence, ces personnes ont un accès moindre, moins aisé, voire n'ont pas du tout accès au corrélat positif de l'implication au sein du gris, qu'il s'agisse d'un meilleur sentiment d'appartenance, d'outils pour communiquer avec leur cercle social ou d'une meilleure acceptation dans leur fréquentation du quotidien. L'intersectionnalité dans le milieu communautaire. En dépit de l'évolution de la mission du gris à travers les années pour démystifier les identités trans, non-binaires et queer, en plus des identités gays, lesbiennes et bisexuelles, une partie des bénévoles souligne une sous-représentation des réalités intersectionnelles au sein du gris et dans le cadre des interventions en classe. Même si l'organisme reconnaît les efforts qui restent à fournir en termes d'intersectionnalité, force est de constater que la relative uniformité des parcours des intervenants-intervenantes peut sembler assez déconnectée de la réalité. Les personnes queer racisées, précaires ou encore handicapées sont en effet peu représentées, ce qui invisibilise davantage les enjeux majeurs qui se retrouvent au carrefour de ces identités. Sans que ces observations ne servent à discréditer la mission du gris spécifiquement, elles doivent inviter et permettre une réflexion plus générale sur l'existence, l'inclusion et la représentation des parcours queer intersectionnels dans la société et dans les écoles. En particulier, elles doivent stimuler les discussions sur le rôle, les méthodes et le cadre de l'intervention sociale à l'échelle du Québec. Par ailleurs, une réflexion doit être menée sur la meilleure façon de représenter ces parcours intersectionnels sans épuiser ni faire reposer l'entièreté du fardeau de l'éducation sur les personnes et communautés concernées, car si elles sont amenées à témoigner plus souvent pour démystifier leur réalité, elles seront nécessairement exposées à plus de situations et de discours violents, d'autant plus si elles sont moins nombreuses en raison des obstacles systémiques mentionnés ci-avant. Bien que l'intervention en classe ait fait ses preuves et que le bilan soit globalement positif, dans la mesure où la présence et la parole militante des personnes queer permettent d'accroître la tolérance et l'ouverture des mentalités de façon concrète, il reste que le cadre de l'engagement communautaire aux fins de démystification peut présenter quelques limites à l'avancement des causes des personnes LGBTQ+. Ainsi, il demeure important de nous assurer de la meilleure représentativité possible au sein de nos organismes. Au GRI, des comités permanents ont été créés pour tenir compte systématiquement des enjeux liés, entre autres, aux identités non cisgenres ou encore à la racisation. De plus, la consultation externe ad hoc de groupes ou d'associations par et pour les communautés concernées est encouragée afin de multiplier les expertises et les compétences et un plan d'action global, comportant une démarche consciente de recrutement au sein des communautés minorisées, a été adopté. Ces actions combinées doivent permettre de veiller à l'intersectionnalité de nos démarches et à mitiger les obstacles systémiques à la représentation et l'inclusion des identités intersectionnelles pour leur permettre de prendre leur juste place dans nos communautés. C'était « Engager sa personne et son parcours de vie dans le bénévolat », milité par le témoignage au GRI Montréal. Un texte d'Alexis Grain-Dorge, Gabriel Richard, Amélie Charbonneau, Kevin Lavoie, Phil-Ariane Desmarais et Olivier Valran, paru dans le numéro du printemps 2025 de la revue du Crémis.
Deux Américains qui tiennent tête à Donald Trump. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 12 juin 2025 dans La Presse. Hunter Dunn manifestait au centre-ville de Los Angeles vendredi dernier contre les raids visant à expulser les résidents en situation irrégulière quand il a commencé à sentir les effets des gaz lacrymogènes. J'aidais les paramédicaux à porter secours aux manifestants, dit le jeune homme de 22 ans. J'étais loin des premières lignes des manifestations, mais il y avait tellement de gaz dans l'air que j'ai toussé pendant des heures. Ce n'était pas une expérience très agréable. Hunter Dunn milite socialement depuis l'école secondaire. Fraîchement diplômé en sciences politiques, il a décidé de consacrer, pour l'instant, 100% de ses énergies à résister à l'administration Trump. Le marché du travail attendra. Il agit de façon bénévole comme coordonnateur des médias nationaux du mouvement citoyen 50-101, 50 manifestations, 50 États, un mouvement. L'organisme, qui compterait sur moins de 10 000 bénévoles, organise des manifestations et des actions pour résister pacifiquement à l'administration Trump. Nous faisons face à un régime autoritaire, dit Hunter Dunn, qui vit dans la grande région de Los Angeles. Ma seule priorité est de protéger ma communauté, de m'assurer qu'on ait encore un pays après tout ça. La démocratie américaine a connu plusieurs assauts depuis le retour de Donald Trump en janvier 2025. Son administration promet d'utiliser la justice pour se venger de ses adversaires politiques, joue du tango pour éviter d'avoir à se plier à certains ordres des tribunaux, se montre hostile à la Constitution, attaque la liberté de la presse. Et, depuis quelques jours, elle envoie des militaires, la Garde nationale, puis les Marines, en territoire américain contre l'avis des autorités locales, une première depuis les années 1960. Pour contrôler des manifestations qui restent pour la plupart pacifiques. Les manifestants à Los Angeles dénoncent la politique migratoire de Donald Trump qui vise à expulser des résidents en situation irrégulière, vivant aux États-Unis depuis des années, sans avoir commis le moindre crime. Les gens qui se rapportaient régulièrement à l'ICE sont maintenant punis parce qu'ils suivent la loi, dit Hunter Dunn. C'est dément. Nos communautés ont peur. Selon moi, on a franchi la ligne du fascisme plusieurs fois à présent. Le 5 avril 2025, plusieurs mouvements citoyens, dont 50501 et Indivisible, ont organisé 1000 manifestations. Selon leur compte, 5,2 millions d'Américains ont manifesté ce jour-là contre Donald Trump. Depuis début juin 2025, il y a des manifestations à Los Angeles devant les immeubles fédéraux où l'Agence fédérale pour le contrôle de l'immigration, ICE, détient des immigrants en situation irrégulière. En Californie, c'est 2,9 millions de résidents en situation irrégulière, non documentés, vont à l'école, travaillent, paient des impôts. Ils constituent 7 % de la population dans un État où 27 % des résidents sont nés à l'extérieur des États-Unis. La majorité des résidents en situation irrégulière vivent aux États-Unis depuis plus de 5 ans. Ils paient 21 milliards en impôts et taxes. Les gens détenus par l'ICE nous écrivaient des messages sur leurs fenêtres en nous disant « Sauvez-nous », dit Hunter Dunn. Il y aura d'autres manifs contre Donald Trump samedi, environ 1800 un peu partout aux États-Unis. Les manifestants préparent depuis des semaines cette journée « Pas de roi aux États-Unis »,« No Kings ». Pourquoi « No Kings » Pour dénoncer l'appétit autoritaire de Donald Trump qui agit comme un roi tout-puissant. Et parce que samedi, l'administration Trump organise un nouveau grand défilé militaire à Washington. Officiellement, c'est pour souligner le 250e anniversaire de l'armée américaine. Mais samedi, c'est aussi l'anniversaire de Donald Trump. Mais résister à Donald Trump, ce n'est pas seulement manifester, selon Hunter Dunn. C'est aussi s'entraider entre Américains, ne pas se laisser intimider. Je vois nos communautés avoir peur, dit-il. Mais la peur se transforme aussi en solidarité. On s'unit pour résister aux actions anticonstitutionnelles de l'administration Trump. Plus près de nous, au Vermont, Miriam Hansen, 76 ans, met aussi beaucoup d'énergie à résister à l'administration Trump. Avec le mouvement Indivisible, elle a aidé à organiser une manifestation de 10 000 personnes en avril à Montpellier, la capitale de l'État. En mai 2025, cette citoyenne canado-américaine a organisé une manif au marché Jean Talon à Montréal. Et samedi, elle donne un coup de main à l'organisation de la manifestation No Kings à Burlington. Miriam Hansen n'avait jamais milité en politique nationale avant la première élection de Donald Trump en 2016. « Je suis jardinière, je n'aime pas la politique et je déteste les réunions », dit-elle. Depuis le premier mandat de Donald Trump, elle a rejoint la section vermontoise du mouvement Indivisible qui se bat pour la démocratie et contre l'autoritarisme. Elle écrit des cartes postales à des Américains dans des États clés. Elle aide aussi à recueillir des dons pour s'assurer que tous les Américains puissent voter dans les États clés. L'administration Trump, c'est un régime totalitaire en gestation, Nous allons nous battre. Fight! 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 » s'exclame-t-elle, reprenant le slogan de Donald Trump contre lui. Les temps sont durs pour ceux qui incarnent la résistance à l'administration Trump. Les républicains contrôlent à la fois la Maison-Blanche, le Sénat et le Congrès. Et 6 des 9 juges de la Cour suprême sont conservateurs. Qui va les arrêter? Nous, les citoyens, clame Miriam Hansen. J'ai l'impression qu'il faudra éventuellement une grève générale. On n'en est pas là. C'est même illusoire de penser qu'on en arrivera là un jour, à mon avis. À court terme, les Américains peuvent faire valoir pacifiquement leur mécontentement à leurs élus, suggère Miriam Hansen, particulièrement aux élus républicains. Ça fonctionne. Fin mai 2025, la sénatrice de l'Iowa, Joni Ernst, a rencontré des citoyens de fort mauvaise humeur dans un rassemblement. Le « Big Beautiful Bill » de Donald Trump prévoit que 8,6 millions d'Américains perdront leur assurance maladie et ses électeurs voulaient une explication. En tentant de justifier cette décision, Joni Ernst a prononcé une phrase épouvantable et insensible « Nous allons tous mourir ». C'est le genre de déclaration qui frappe l'imaginaire et qui pourrait hanter le camp républicain. L'administration Trump, ce sont des gens incompétents et ignorants, dit Miriam Hansen. Ils brisent le système. Au cours des prochains mois, beaucoup de choses vont malheureusement aller mal à cause de leurs décisions. À moyen terme, les mouvements de résistance à l'administration Trump pourront se faire entendre aux élections de mi-mandat en novembre 2026. Si les démocrates peuvent reprendre le contrôle de la Chambre des représentants ou du Sénat ou des deux chambres, ils pourront s'opposer plus efficacement à l'administration Trump. D'ici là, les Américains soucieux de l'état de leur démocratie semblent garder le moral. Ils peuvent se motiver en se rappelant que Donald Trump atteint des sommets d'impopularité pour un début de mandat présidentiel. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de gens veulent se battre, dit Miriam Hansen. C'était « Deux Américains qui tiennent tête à Donald Trump ». Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 12 juin 2025 dans La Presse.